Bonjour à tous, Liliane sur Radio Grand Ciel pour l'émission Figure de l'Histoire. Connaissez-vous Loudun ? Une jolie petite ville au pied de laquelle passent la Dive, la Creuse, le Martiel qui se jette dans la Vienne. Elle est le théâtre de guerres de religion. Le roi et sa mère, Catherine de Médicis, ayant entendu parler de cette violence entre catholiques et protestants, décident finalement d'aller voir un petit peu sur place ce qui se passe et ce que l'on pourrait faire. Si bien que les habitants de Loudun, ayant appris la visite du roi, subitement, ils cessent de s'écharper, les échafourés arrêtent et une foule joyeuse et enthousiaste accueille le roi, sa mère et sa sœur Margot, accompagnée du cardinal de Bourbon. Catherine en profite pour choisir dans le palais royal des tableaux anciens qu'elle va emporter et j'ajoute qu'on ne reverra pas. Au désastre de cette guerre s'ajoutent évidemment à l'époque les épidémies et les famines. En 1563, 3623 Loudunois meurent de la peste. C'est dans cette atmosphère de guerre civile, d'épidémie et de famine que vient au monde Théophraste Renaudot en 1586. Alors on ne connaît pas la date exacte, peut-être en août ou en décembre, enfin on ne sait pas. Il est baptisé au Temple protestant. La famille Renaudot est d'origine bourguignonne, le grand-père vivait à Vitry en Bourgogne, et l'un de ses enfants, Jean, est venu s'installer à Loudun en 1580. C'est le papa de Théophraste, il est assez fortuné, et quand Théophraste vient au monde, le père remarque que son fils est vraiment laid. Maigre, osseux, le nez camu, des mains énormes, au bout de longs bras. Pendant longtemps, le père de Théophraste le considère comme un être inférieur, indigne de lui et de sa fortune. Mais, s'il n'est pas beau, il possède une grande qualité de cœur et d'esprit. Ce matin de mars 1596, les Loudunois voient de derrière leur fenêtre quatre sergents du guet qui traînent un vieil homme tout dépenaillé qui se débat. Alors il y a une commère qui se renseigne. Qu'a-t-il donc fait ? Eh bien, il a volé un quignon de pain chez Maître Dieu le sait. Un petit garçon s'approche du vieux qui pleure. « Pourquoi pleurez-vous ? » demande le gamin. « Pour un bout de pain. J'avais trop faim. Voilà 15 jours que je marche. On me chasse de partout. Je suis vieux. Si seulement je pouvais mourir, je ne souffrirais plus. » Eh bien, ce petit garçon, c'est le petit Renaudot, qui fond en larmes. Mais le guet emmène le vieux résigné, secoué de sanglots. Et maintes fois par la suite, le jeune Renaudot se souvient du vieillard auquel il n'a pas pu porter secours. Alors, que va devenir Théophraste, tellement il est laid, se dit le père. Eh bien, il se sent attiré par la médecine. Son père en est charmé. Un fils instruit, ça fait bien dans la ville. Il est flatté de la vocation de son fils, qui l'attribue à l'excellente éducation qu'il lui a inculquée. Éducation qu'il lui a inculquée, je répète, à grand renfort de coups de verge. Théophraste suit donc les cours des grandes écoles à Loudun même. C'est un excellent élève. Il travaille fort tard dans la nuit, très souvent. Il n'est pas très aimé de ses camarades parce qu'il déteste les jeux brutaux et parce que surtout, il est trop bon. De plus, les professeurs vantent son assiduité, sa compréhension rapide et le donnent en exemple. Alors vous pensez bien que ça le fait détester encore plus de ses compagnons. Il voudrait bien avoir un ami. Eh bien, il n'en a pas. Alors, il se concentre davantage sur son travail pour oublier sa solitude. Heureusement, son maître, Daniel Boulanger, dont il est le meilleur élève, se prend d'amitié pour lui. Alors il le conseille, il le guide, et le soir après la classe, tous les deux vont se promener au bord de la Dive en devisant. Maintenant, Théophras a 18 ans. Il a terminé ses études. Il lui faut quitter Loudun pour aller où ? À Montpellier, parce que c'est là que se font les meilleures études de médecine. Montpellier est réputé vraiment dans toute l'Europe. Alors, le voyage jusque-là, quand je dis le voyage, il part à pied. Hein. L'enchante, les paysages, les gens qu'il rencontre, il est tout content. En arrivant à la faculté, il est accueilli par des moqueries. Mais quel est donc ce nouvel élève, au nez camus, à la longue figure, aux jambes maigres, aux bras interminables, et comme il est vêtu bizarrement ? Eh bien, Théophras en a le cœur serré. Cependant, les élèves, voyant tant de détresse dans les yeux du nouveau, ils changent d'attitude et ils entreprennent de l'initier aux joies de la vie étudiantine. Ah ah ! Pour commencer, direction la taverne, où l'on boit, où l'on mange, on peut même dire qu'on se goinfre. On crie, on chante, des chansons auxquelles Théophraste n'est vraiment pas habitué. Il s'en sent un peu étourdi, mais enfin il est tout content puisqu'il pense avoir là des amis. Il est tellement étourdi que ses camarades le conduisent dehors. On peut dire qu'il est ivre. Et lorsqu'il finit par reprendre ses esprits, où se trouve-t-il ? Dans le lit d'une prostituée, complètement ahurie. Dehors, animé d'une brusque fureur, il décide alors d'aller infliger à ses camarades une volée formidable. Puis il s'aperçoit finalement qu'il se rendrait ridicule. Un moment, il se dit qu'il va fuir Montpellier et repartir à Loudun. Mais sa vocation, c'est vraiment sa raison de vivre. Alors, il se dit qu'il va faire contre mauvaise fortune bon cœur et que finalement, il va se venger autrement. Nous allons faire une première pause musicale.
Thank you.
Sur Radio Grand Ciel, je vous raconte la vie de Théophraste Renaudot qui vient d'arriver à Montpellier pour suivre des études de médecine. Il témoigne d'une telle supériorité intellectuelle que ses camarades finissent quand même par avoir pour lui une sorte de respect. Le 16 janvier 1606, le jeune Théophraste Renaudot est reçu bachelier en médecine. Le 5 avril, il passe brillamment sa licence et le 12 juillet, il obtient le titre de docteur. Il a même été reçu avec une dispense spéciale parce qu'il n'a pas 20 ans. Eh bien, on ne peut pas dire qu'il en est fier, il garde tout à fait sa simplicité. Alors, que va-t-il faire maintenant ? Eh bien, il se sent trop jeune pour s'imposer à Loudun. Comme il a quelques fortunes, il décide de voyager. Où ? Eh bien, nous ne le savons pas. Pour quelqu'un qui a inventé le journal, il a omis de tenir le sien. On peut supposer que c'est en Italie. Pourquoi ? Parce que Théophraste a créé en France le Mont de Piété et que cette institution fonctionne déjà en Italie. Alors, pourquoi est-ce que c'est pas là qu'il en aurait pris l'idée ? Il rentre en France, mais il se dit « Oh, je ne vais pas rentrer tout de suite à Loudun. Allons voir ce qui se passe à Paris. » Et à Paris, il n'y perd pas son temps. Il ne manque pas de malades. Paris, c'est à la fois un hôpital et un asile. Tous les miséreux, tous les soldats sans sol, les vagabonds, tous les isolés s'y précipitent. Les maladies sont nombreuses, les plaies et la vermine abondent, on admet un malheureux par pitié à l'Hôtel Dieu, faute de place et de matériel, eh bien on couche tout ce monde-là à plusieurs dans un même lit. Et bien sûr, ils se transmettent leur maladie. En fait, Théophraste est plus séduit par la chirurgie que par la médecine. Il y entre à ce moment-là au collège Saint-Côme, et dans ce collège, qui est un collège catholique, on y admet quand même les Huguenots. La grande misère de Paris l'émeut profondément et il prend peu à peu le serment de faire une œuvre de charité. Il sent qu'il a ça à accomplir. Alors, que peut-il faire sans protecteur ? Ah ben, pas grand-chose. Alors, tout à coup, il décide de rentrer à Loudun. La ville n'a pas beaucoup changé. Les échauffourées entre catholiques et protestants ont recommencé. Les Huguenots ont brisé toutes les statues de Saint-Pierre du Marché. Ils ont pillé et brûlé le prieuré de l'ordre de Saint-Benoît. La collégiale Sainte-Croix, l'église des Carmes. Théophraste, qui est protestant, n'approuve pas du tout ces excès. Mais il est certain de trouver au moins la sécurité à Loudun. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'édit de Nantes, vous vous rappelez, de Henri IV, 1598, non seulement les protestants avaient le droit de pratiquer en privé leur religion, mais ils avaient obtenu des places fortes, des places de sûreté, avec même des soldats à l'intérieur. Eh bien, Loudun en fait partie. Donc la ville est devenue tranquille, elle s'est mise à prospérer, beaucoup de petits marchands se sont enrichis, on y trouve des huissiers, des avocats, des juges. Théophras pense trouver là une bonne clientèle. Il a 23 ans. Il est somme toute d'une laideur sympathique. Si bien qu'il finit par se marier. En 1609, il épouse Marthe Dumoutier qui appartient à une vieille famille calviniste riche. Ils vont avoir 3 enfants, Théophraste, qui va devenir magistrat, Isaac et Eusèbe. Théophraste Renaudot devient réputé. Quand il ne s'occupe pas de ses malades, il pratique ce qu'on appelle des anatomies à l'époque, c'est-à-dire des autopsies. Il étudie les simples et il fabrique même des médicaments. Il pratique avec le plus grand dévouement et le plus grand désintéressement. Il se fait même quelquefois pas payer. Sa science, son expérience, sa bonté lui confèrent prestige et estime. Alors il est en relation avec la haute bourgeoisie protestante, mais aussi avec les catholiques les plus en vue. La tolérance s'installe dans la ville. Et voilà que se produit une rencontre providentielle, celle de Richelieu et du père Joseph. Alors, comment se sont-ils rencontrés ? Eh bien, le père Joseph, de son vrai nom François Leclerc du Tremblay, c'est un franciscain, c'est un diplomate, et ses supérieurs font même de lui un prédicateur, et il l'envoie prêcher où ? Bien sûr, en pays huguenot, pour essayer de reconvertir les huguenots en catholiques. Alors, il part d'abord pour Saumur, puis à l'Encloître, qui se trouve à 4 lieues de Loudun, parce que c'est un foyer d'agitation de protestants. Donc, le Capucin y arrive, il jette un regard perspicace sur la ville, et il découvre à Loudun Renaudot. Il voit clairement le parti qu'il peut tirer de lui. Ce dernier, homme de grand savoir, également estimé par les protestants et les catholiques, imbu d'idées charitables, pratique en somme, bien qu'hérétique, le vœu même de saint François. Donc, ça va les rapprocher. Renaudot, de son côté, ne fait pas mauvais accueil aux franciscains, parce qu'il est conciliant, préoccupé de soulager de la misère, qui, elle, comme la maladie, n'a pas de religion. Ces deux hommes sont donc faits pour s'entendre et plaire à un troisième homme, Richelieu. Richelieu, en ce moment, il n'est pas très bien vu en cour, si bien qu'il s'est dépêché de revenir dans son évêché et il est dans son prieuré de Cousset, qui se trouve près de Mirebeau. Le père Joseph lui rend visite et tout le monde reconnaît en lui un esprit remarquable. Il lui parle de Renaudot, de son influence à Loudun, de ses idées sociales, si bien que les trois hommes se rencontrent et se découvre vite une grande communauté d'intelligence et de cœur. Je dis de cœur pour l'instant pour Richelieu. À partir de 1609, on les voit souvent ensemble. Nous allons faire une deuxième pause musicale. Thank you. Nous sommes sur Radio Arc-en-Ciel. Je vous raconte la vie de Théophraste Renaudot qui vient de faire la connaissance de Richelieu et du père Joseph du Tremblay. Et à partir de 1609, on les voit souvent ensemble. 14 mai 1610, Henri IV est assassiné. Sa femme gouverne le pays, un pays qui est en triste état. Théophraste, à ce moment-là, compose une œuvre, un livre qu'il appelle « Traité des pauvres ». Il veut soulager la misère, mais il dit qu'il vaudrait mieux quand même en détruire la source de cette misère. La cour, inquiète des maux dont elle est en grande partie responsable, entend le murmure qui monte du peuple et prête l'oreille à l'oraison de Renaudot. La réputation de ce petit médecin du Poitou est arrivée jusqu'à la régente. Richelieu, présenté à la reine par le père Joseph, lui en fait part. Aussi, il lui dit que c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent et tout dévoué à ses semblables. Et il insiste pour qu'on le fasse venir à Paris. Peut-être a-t-il des idées pour soulager la misère. Bien sûr, il n'est pas question de supprimer les impôts et de réduire les dépenses de la cour. Ben, Théophraste arrive et il expose ses théories, ses projets, ses inventions. On l'écoute et le voici bombardé, médecin ordinaire et conseiller extraordinaire par un décret du 14 octobre 1612. La régente, ayant signé ce décret, se sent aussitôt le cœur plus léger. Elle croit qu'elle a résolu le problème des pauvres. Mais Théophraste, lui, il n'est pas grisé par son titre officiel. Il garde un pied à la cour, l'autre à Loudun, où sa famille est restée. La misère est grande dans le pays. Et Renaudot pense que si les gens en sont venus à mendier, c'est parce qu'ils ne connaissent pas les adresses auxquelles ils pourraient avoir recours. Alors il a l'idée de créer une sorte de bottin où l'on peut déposer des petites annonces qui seraient aussi un bureau de placement, centre d'une solidarité sociale finalement. La jalousie fait qu'une cabale se montre contre Théophraste. On le jalouse. La régente, Richelieu et le père Joseph sont pour lui. Seulement, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Et les trois que je viens de citer là, ils ont d'autres choses à penser, en particulier à mettre le nez dans les affaires des complots. Alors du coup, Renaudot en a assez et il retourne à Loudun exercer le métier pour lequel il est fait, c'est-à-dire la médecine. Mais en même temps, il travaille la chimie. Il fréquente à ce moment-là un monsieur qui s'appelle Sévola de Sainte-Marthe, un homme intègre, d'une noblesse exemplaire. Il habite, ce monsieur, la plus belle des demeures de la ville, mais aussi la plus accueillante. Chez lui, protestants et catholiques peuvent se rencontrer sans s'étriper, et la conversation y est tout à fait tolérante. De quoi parle-t-on ? De philosophie, de science, d'art, d'antiquité. Le jeune Ismaël Bouliot, qui a 20 ans, brille par sa connaissance de l'astronomie. Il soutient, lui, que la Terre tourne. Mais vous savez bien qu'à l'époque, ce n'est pas l'opinion de tout le monde. Toutes ces personnes, protestants, catholiques, tolérants et réservés, parlent rarement de choses de la religion. Parmi eux, apparaît un jeune prêtre catholique. Alors là, ça va faire une histoire dans Loudun, formé par les jésuites. Il s'appelle Urbain Grandier. Il est intelligent, il parle bien, il est cultivé, donc on le rencontre là, dans cette maison. En plus, c'est un fort bel homme. Il prêche très bien, alors on se précipite à ses sermons. Mais il faut ajouter qu'il est orgueilleux, violent et fier de ses succès. Toutes les femmes courent se confesser à lui. Les maris sont mécontents et regardent cet Urbain Grandier de travers. D'autant que ce dernier provoque des scandales. Qu'est-ce qu'il fait ? Il se bat en duel avec le lieutenant criminel devant son église, il revendique la préséance dans les assemblées sur Richelieu lui-même, à Luçon, il assomme le chanoine de Saint-Léger. Théophraste n'arrive pas à croire ce qu'on raconte sur Grandier. Mais voilà que ce dernier séduit l'une des filles du procureur du roi. Alors là, ça va pas du tout. Elle en a un fils. Le père de la jeune fille est complètement désespéré. Ça touche pas du tout Grandier, qui devient, il délaisse d'ailleurs cette personne-là, et puis il devient l'amant de Madeleine de Broux, une orpheline que sa mère mourante lui a confiée, la pauvre femme. Finalement, il l'épouse, écoutez bien, il célèbre lui-même le mariage dans son église. Alors vous pensez bien que le scandale est effroyable. Il amasse sur sa tête la colère et la haine, et voilà que se produit quelque chose d'épouvantable. Toutes les religieuses du couvent des Ursulines semblent ensorcelées par le diable, et quand on leur demande à quoi il ressemble ce diable, vous devinez, elles le décrivent sous les traits d'Urbain Grandier. Ce dernier est arrêté, la ville en a assez, une pétition est envoyée au roi pour qu'il mette fin au scandale. Vous pensez bien que le roi ne répond même pas. Finalement, Urbain Grandier est jugé, condamné et brûlé le 18 août 1634. Tout Loudun est là à regarder. Eh bien, revenons à Théophraste, qui n'a pas pu installer son bureau pour les pauvres. Voilà que, 5 ans après, le 3 février 1618, on lui confère le titre de commissaire général des pauvres du royaume. Alors Renaudot part à Paris, il s'y installe et il veut créer ce qu'il va appeler son bureau des adresses. Son idée est simple, une heure après leur arrivée, il accueillerait dans son bureau les pauvres gens. Immédiatement, on leur donnerait des adresses d'employeurs que l'on aura collectées avant. Ces bureaux pourront s'établir dans toute la France. Richelieu demande alors à Théophraste de se convertir au catholicisme. Ah, un bureau d'adresse à Paris, ça vaut bien une messe. Il y en a un qui a montré l'exemple, c'est Henri IV. Alors Renaudot se convertit. On peut dire en créant ce bureau que Théophraste a été le premier à comprendre le rôle de l'intermédiaire. Seulement il faut de l'argent pour ça. Il en faut pour ouvrir la boutique. Comment est-ce que Renaudot va s'en procurer? Eh bien là, c'est un mystère, on ne sait pas. Il espère fermement qu'il se trouvera bien dans le royaume, une personne au moins qui veuille perpétuer sa mémoire en dotant le bureau d'adresse d'un revenu suffisant pour lui faire continuer avec plus d'ornement et de splendeur le soutien de ses grandes charges. Il est probable que le gouvernement l'aide en puisant dans les fonds secrets. En tout cas, ça fonctionne et c'est le succès. Le public vient. Il est vraisemblable qu'un maître qui cherche un valet rencontre un valet en quête d'un maître. Et une autre idée lui vient. Il ne peut supporter que de pauvres artisans ne puissent continuer leur travail parce qu'ils sont malades et qu'ils ne peuvent pas se soigner. Alors, il fait appel au dévouement gratuit des médecins, des chirurgiens et des apothicaires. Nous allons faire une dernière pause musicale. Thank you. sur Radio Grand Ciel, je vous raconte la vie de Théophraste Renaudot, médecin qui a installé à Paris un bureau qui permet aux gens de se rencontrer pour trouver un emploi. Et il pense que ça ne serait pas juste que les artisans malades ne puissent pas se soigner parce que s'ils arrêtent de travailler, évidemment, ils n'ont plus d'argent. Et ils n'en ont pas non plus d'ailleurs pour se soigner. Donc, il fait appel au dévouement gratuit des médecins, des chirurgiens, des apothicaires. Voici que le bureau est devenu clinique et dispensaire. L'élan est donné, la fondation prospère. Un père qui veut donner à son fils une bonne éducation trouve là l'adresse des meilleures académies, collèges ou écoles. On indique les maisons qui prennent des pensionnaires. Le marchand voulant se déplacer se voit préparer un itinéraire et on peut dire du bureau qu'il fait office de banque immobilière, de crédit foncier, d'agence de location, de curiosité, pharmacie, agence de messagerie. Les portes sont ouvertes de 8h à midi et de 14h à 18h. Théophraste travaille sans arrêt au perfectionnement de son œuvre. Et voilà qu'il a une autre idée. Il la présente au roi. C'est un projet d'une banque populaire, l'équivalent de notre monde de piété actuel. Il va lui donner un autre nom, il appelle ça le bureau des grâces. Alors on apporte un objet, un vêtement, et on repart avec l'argent souhaité. On récupérera l'objet ou le vêtement en remboursant ce qui a été prêté. Et c'est prêté sans intérêt. On peut dire que le monde de piété est fondé en France. La semaine prochaine, je vous parlerai de sa fondation suivante, si importante, qu'il existe depuis 1926 un prix Théophraste Renaudot. 10 informateurs appartenant à des grands journaux parisiens placent leur prix sous l'invocation de l'illustre père du journalisme en France. Au revoir à tous. Thank you.
Mm-hmm.